Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, après ce bref entracte, comme il se doit au théâtre, on peut reprendre le fil de l'intrigue. Donc, le troisième argument et dernier argument que Théobald développe dans sa préface, c'est une réponse à ceux qui, dit-il, qui voulaient déprécier la chose, to depreciate the affair, ceux qui ont soutenu que, et je cite Théobald en traduisant, « Même si la pièce peut avoir quelques ressemblances avec Shakespeare, disait-il, les détracteurs, toutefois, the coloring, the diction and the characters come nearer to the style and manner of Fletcher. La coloration, le langage, les personnages sont plus proches du style et de la manière de Fletcher que de Shakespeare. » Donc c'était une critique qui ne portait plus sur l'impossibilité chronologique pour Shakespeare d'avoir connu le Don Quichotte, qui ne portait pas sur le fait incroyable qu'une telle pièce avait pu être perdue, mais qui portait sur le fait que si elle existait et si elle était ancienne, elle était sans doute beaucoup plus de Fletcher que de Shakespeare. Dans la première version de sa préface, c'est-à-dire dans la première édition en 1728, Théobald laisse la question ouverte en disant qu'il se réfère à de meilleurs juges pour la détermination d'un jugement. Mais du coup, en renvoyant à ces meilleurs juges ou ces personnes dotées d'un better judgment, il renvoyait à cette validation aristocratique de l'authenticité que l'édition exprimait en toutes ses préliminaires avec la dédicace à Doddington et surtout le privilège royal. Il affirmait évidemment qu'il avait une partialité, voulant, je cite, que chaque chose qui est bonne ou plaisante dans notre langue, in our tongue, soit due à la plume de Shakespeare, mais cette partialité finalement n'était que corroborée par les attestations d'autorité qui étaient présentes dans l'édition. Et donc, du coup, il renvoyait à cette parole aristocratique et monarchique la preuve de l'authenticité shakespearienne contre ceux qui prétendaient que la pièce était de John Fletcher. Dans la deuxième édition, on voit que l'affirmation est beaucoup moins assurée. La même phrase où il fait allusion à sa partialité en faveur de Shakespeare a été transformée, et ce n'est plus ce qui est bon dans « in our tongue », dans notre langue, l'anglais, qu'il a tendance à attribuer à Shakespeare, mais aussi tout ce qui est bon ou plaisant dans cet autre grand poète, « in that other great poet », c'est-à-dire Fletcher. Et donc, du coup, il introduit lui-même l'idée d'une possible présence auctoriale de Fletcher et disant que sa partialité le conduit à peut-être attribuer à tout ce qui est bon chez Fletcher à la plume de Shakespeare. Et ensuite, il avance un argument selon lequel il avait écrit une dissertation qui devait prouver que la pièce était bien de Shakespeare, dit-il, en fondant sur les particularités du langage et la nature des pensées, « peculiarities in the language and nature of thoughts ». Mais comme il n'était pas sûr que la pièce serait attaquée, il n'a pas publié cette dissertation, il l'a gardée comme une possible défense, et maintenant, comme dit-il, et c'est un peu une affirmation contradictoire avec tout le sens de la préface, le danger est écarté, comme si finalement la parole aristocratique et monarchique suffisait à attester l'authenticité shakespearienne, il décide de garder pour une meilleure occasion, a better occasion, la publication de cette dissertation qui doit établir clairement, à partir du style, du langage et de la pensée, que la pièce est shakespearienne. Et dit-il, cela pourra fournir l'occasion de parler plus longuement à propos de cette pièce. Mais on voit qu'il y a un glissement de la première édition de la préface à la seconde édition, puisque dans la seconde édition, c'est lui, Théobald, qui introduit la présence de Fletcher et que finalement, il ne la rejette qu'au nom d'une dissertation qu'il n'a pas publiée et qu'il attend de meilleures circonstances pour faire imprimer. Et de fait, cette better occasion ne va jamais survenir, même si elle avait été donnée à Théobald, puisque, comme je l'avais dit la fois dernière, en 1733 va être publiée sa propre édition des works de Shakespeare, qui lui a été commanditée par Jacob Thompson, sans doute convaincu des critiques que Théobald avait adressées à l'édition de Pope et qu'à l'expiration des 14 ans ou avant même du copyright sur l'édition de Pope, Thompson a pensé qu'il devait confier au seul érudit qui paraissait en mesure de le faire une édition corrigée de Shakespeare. Mais dans cette édition de 1733, Théobald ne profite de cette opportunité ni pour publier et faire figurer Double Falsehood dans le corpus shakespearien, malgré toutes ces affirmations péremptoires de l'authenticité shakespearienne du texte en 1728, ni pour faire, il n'utilise pas non plus cette possibilité pour publier sa dissertation qui devait prouver l'authenticité shakespearienne avec des arguments stylistiques et thématique de l'authenticité shakespearienne. Dans l'édition de 1733 de Théobald, on ne trouve qu'une note qui mentionne en passant l'existence de Double Falsehood et il la présente comme une pièce posthume de notre auteur que j'ai portée sur la scène. Formule un peu curieuse, d'ailleurs, une pièce posthume de l'auteur, puisque on ne voit pas très bien comment... enfin, sinon qu'elle aurait été existante uniquement après la mort de Shakespeare sous la forme de manuscrits qui serait très postérieure. Et d'autre part, sur l'idée qu'il l'a mis sur la scène, mais... Cela ne suffit pas, cette posthumous play of our author, pour qu'elle entre dans le corpus canonique des œuvres de Shakespeare. En 1733, la pièce si fortement revendiquée comme shakespearienne en 1728 n'apparaît pas dans les œuvres complètes. De là, pourquoi finalement cette contradiction de Théobald. La première raison pourrait être, comme j'essayais de le montrer dans le passage de In our tongue à In that other great poet, pourrait être qu'il a commencé à suspecter que la pièce pouvait être de Fletcher ou que si elle avait été écrite en collaboration, elle ne pouvait pas entrer dans le répertoire canonique shakespearien qui, depuis le folio de 1623 et jusqu'aux éditions qui précèdent immédiatement celle de Théobald, 1709, Rowe, 1725, Pope, ne voulait conserver que les pièces écrites, du moins le pensait-on, par le seul Shakespeare, ce qui écartait d'emblée toutes les pièces dont on suspectait qu'elles avaient été écrites en collaboration. Et c'est pourquoi, depuis le folio de 1623, les pièces écrites en collaboration, comme par exemple The Two Noble Kinsmen ou Pericles, n'entraient pas dans le corpus shakespearien et Théobald suit cette discrimination et pas plus que Double Falsehood, même s'il clamait qu'elle était shakespearienne, et il ne publiera dans son édition de 1733 ni Pericles, pourtant désigné par lui une pièce qui a été attribuée à notre auteur, et de fait, une partie de cette pièce a certainement été écrite par lui. Some part of it is certainly of his writing. Donc reconnaissant que Shakespeare a participé à l'écriture de Périclès, il, pour autant, pièce considérée en collaboration, il ne la fait pas entrer dans le corpus des œuvres de Shakespeare. Et la même chose pour The Two Noble Kinsmen, les deux nobles cousins, une pièce dans laquelle Shakespeare a contribué, a play in which Shakespeare assisted. Mais ni l'une ni l'autre ne peuvent entrer dans le corpus parce qu'elles sont écrites en collaboration, ce qui est contradictoire avec l'idée du monument érigé à partir du folio de 1623 au seul génie shakespearien et aux seules pièces qui sont considérées comme tout entières de sa main. Il y a donc là une première raison d'exclusion de Double Falsehood, malgré la revendication shakespearienne, le doute qu'elle puisse être fletchérienne, mais même si elle est en collaboration, c'est une raison suffisante pour l'écarter de l'édition. On peut aussi penser que Théobald, même s'il a utilisé l'argument pour récuser l'idée d'une falsification, il existe des manuscrits et il en possède 3. Néanmoins, il pouvait avoir un certain doute ou insatisfaction par rapport à ces manuscrits, puisque certains étaient soit récents, les 2 copies présentées comme n'étant pas aussi anciennes que la copie établie par Downes, et qui ne pouvaient dater au plus tard, ou plutôt que de la fin du XVIIe siècle, ou bien que ce manuscrit le plus ancien, celui des années 1660, lui apparaissait avec des flaws and interruptions, donc des lacunes, des mutilations, des réécritures et des raccourcissements, comme résultant d'une adaptation par la troupe de Davenant lors de la restauration. Il a donc pu suspecter que les manuscrits ou le manuscrit le plus ancien qu'il possédait entretenait une relation avec le texte de 1613, un peu du même ordre que la relation qu'entretenait The Rivals, l'adaptation de Davenant, avec le texte des Two Noble Kinsmen. Et donc, du coup, que des manuscrits qui étaient déjà des adaptations de la mi-XVIIe siècle étaient sans doute des bases pour Théobald insuffisantes pour publier la pièce dans ses œuvres. Enfin, il y a une raison éditoriale. On peut penser que donc, la première raison est auctoriale. Une pièce écrite en collaboration ne peut entrer dans le corpus shakespearien. La seconde raison est une raison textuelle. Une pièce dont la trace la plus ancienne est un manuscrit qui présente des incohérences et des abrégements est insuffisante pour entrer dans le corpus shakespearien. La troisième raison est tout à fait éditoriale, c'est-à-dire avec le statut de 1710, Jacob Tonson, pour maintenir un copyright perpétuel sur les œuvres de Shakespeare, devait montrer qu'une fois expiré le délai de 14 ans, qui était le délai normal de protection de l'œuvre, il pouvait republier une édition de ce texte originel avec les corrections qui lui étaient apportées. C'est-à-dire que la perpétuité de la propriété sur les œuvres de Shakespeare était maintenue après le délai des 14 années par le fait que c'était une nouvelle édition d'un texte originairement possédé qui était publié. Et c'est cette stratégie que l'on voit Tonson développer avec l'édition de Pope qui était prévue pour 1723, c'est-à-dire 14 ans après l'édition de Rowe de 1709, même si Pope a tardé un peu et si le livre est sorti seulement en 1725, puis réédité en 1728. C'est la même stratégie qu'il va adopter Tonson pour l'édition qu'il commande à Théobald, et ici en anticipant sur l'expiration du privilège, puisque l'édition de Pope de 1725 aurait supposé un copyright qui dure jusqu'en 1739, 14 ans, et c'est dès 1733, anticipant l'expiration du privilège, qu'il demande une édition corrigée et révisée à Théobald. La stratégie est tout à fait une stratégie d'édition, de maintenir une perpétuité du copyright en présentant chaque nouvelle édition comme un nouveau texte, corrigé, révisé, mais en même temps sur des œuvres dont il possède depuis 1709 le copyright. Mais il y avait un corollaire à cette stratégie d'édition, c'était le fait que l'on devait toujours garder le texte précédent comme la base de la nouvelle édition corrigée et imprimée, et révisée. Et c'est pourquoi Théobald hérite du texte de Pope comme étant le texte de base qu'il corrige et qu'il révise. De la même façon que Pope avait hérité du texte de Rove comme la base de sa propre édition. Et cette stratégie continuera ensuite, puisque Thomson demandera à Warburton une édition qui va être publiée en 1747, c'est-à-dire exactement 14 ans après l'édition de Theobald de 1733. Mais comme je le disais, la conséquence est que Théobald doit accepter le texte de Pope comme texte de base, même s'il le soumet à de drastiques corrections, et il doit accepter le corpus shakespearien tel qu'il avait été défini par Pope, qui avait exclu The Two Noble Kinsmen, et qui avait placé dans un volume séparé, le neuvième de son édition, les pièces qui étaient objet de doute quant à leur autorité shakespearienne, même si elles avaient pu être publiées avant la Révolution, avec dans des éditions quarto qui, sur la page de titre, mentionnaient « by William Shakespeare » ou « by W.S. ». C'est un trait qui est intéressant, c'est-à-dire que dans les années, à partir des années 1600, des décennies 1600-1610, le nom de Shakespeare est suffisamment fort pour attirer des acheteurs d'éditions, et un certain nombre de libraires et imprimeurs vont donc publier avec le nom de Shakespeare ou des initiales facilement déchiffrables pour les acheteurs et lecteurs, des pièces qui, du moins la tradition va l'établir ainsi, n'ont rien de shakespearien. C'est ici un procédé qu'on a pu évoquer aussi pour Lope de Vega, c'est-à-dire faire vendre, c'est le procédé inverse du plagiat. Il ne s'agit donc pas que de prendre un texte de Shakespeare et de le publier sous un autre nom, mais il s'agit de prendre une pièce qui a été écrite par un autre dramaturge et de la publier sous le nom de Shakespeare de façon à lui assurer un succès, une visibilité, une vente supérieure. Et c'est pourquoi dans le troisième folio, en 1664, la seconde émission du troisième folio, un certain nombre de pièces, sept, ont été ajoutées au corpus tel qu'il avait été défini en 1623. Parmi elles, Périclès, qui est d'ailleurs la seule pièce qui va, à travers le 18e, le 19e et le 20e, garder quelque chose de shakespearien, comme une pièce écrite en collaboration, mais il y en a six autres qui sont shakespeariennes entre 1664 et 1725, mais Pope est déjà très méfiant, tel que l'avait été Rove, et il les publie dans un volume séparé, détaché du corpus shakespearien, et l'édition de Théobald, elle, ne les intègre pas du tout, même si Thomson va les publier sous forme de quarto séparé. On a donc là l'héritage de Pope qui s'impose à Théobald et qui lui fait définir le corpus shakespearien comme une forme de retour à ce qui avait été défini dès 1623 par Hemings et Condell dans leur première édition. Donc ce sont trois raisons éditoriales, textuelles et auctoriales qui expliquent pourquoi non seulement Double Falsehood, mais aussi The Two Noble Kinsmen ou Pericles n'entrent pas dans l'édition des œuvres de Théobald. La préface se termine avec une expression de la double gratitude de Théobald vis-à-vis des acteurs, mais dit-il, le public les a déjà distingués par ses applaudissements, et vis-à-vis, ce qui est le plus intéressant, des managers, des directeurs du théâtre de Drury Lane, là où est établie la troupe du Theatre Royal. Et il y a un long paragraphe à la fin de cette préface pour remercier les directeurs du théâtre qui ont accepté la pièce et monté les représentations. Et on entre là dans une discussion intéressante du début du XVIIIe siècle qui était la difficulté ou le choix offert au directeur des théâtres londoniens entre représenter des pièces du old stock, les pièces anciennes, réécrites, révisées, adaptées, transformées, mais qui appartenaient à ce moment du théâtre des années 1560-70 jusqu'à 1640, ou bien d'accepter des pièces nouvelles. Et à travers ce dilemme évoqué par Théobald, il prend la défense des trois directeurs du triumvirat qui dirigent Drury Lane, c'est-à-dire Colles, Cibber, Barton Booth et Robert Wilkes, les deux derniers, Booth et Wilkes, étant des acteurs de la troupe. Ils sont d'ailleurs distribués, comme on le voit dans la liste des dramatis personae de Noble Falsehood, dans la pièce de Théobald. Booth devait jouer le rôle de Giulio. J'avais rappelé qu'il avait été malade lors de la première et qu'il ne reprend le rôle un peu plus tard. Et d'autre part, Wilkes joue le rôle de Henriques. Et Colles Cibber est le directeur des directeurs, en quelque sorte. Et ils sont l'objet d'une très mordante satire qui les attaque dans les années qui précèdent 1728. Il y a une estampe de Hogarth qui s'appelle « A Just View of the British Stage », une vue véritable de la scène britannique, et qui est une destruction de ce triumvirat qui dirige le théâtre de Drury Lane. Et pourquoi ? Parce qu'on les accuse de préférer les genres à la mode à l'ancien et noble répertoire. Ces genres à la mode que sont les brefs opéras italiens, les pantomimes et les farces. Et on retrouve là la polémique que j'avais évoquée entre ces genres à la mode, mais qui sont, par le parti des Stuarts, critiqués comme une dégénérescence du goût anglais, à laquelle Théobald d'ailleurs avait participé, puisque vous vous souvenez qu'il a écrit des pantomimes pour Colles Cibber. Donc il s'agit de défendre le triumvirat, mais paradoxalement Théobald les défend contre une autre accusation, non pas celle de faire dégénérer le goût anglais. La preuve, c'est qu'ils ont accepté de monter une pièce de la grande manière du théâtre shakespearien, mais contre l'accusation de peut-être qui était une réaction de leur part contre cette satire de Hogarth, de refuser les pièces contemporaines et donc avec de mauvaises relations avec les auteurs du temps. Et Théobald reconnaît leur privilège de refuser des pièces trop vulgaires, trop imparfaites pour le divertissement du public. Et donc, du coup, il les défend contre cette autre accusation, c'est-à-dire de se détourner des pièces contemporaines, et donc les loue pour avoir accepté de redonner dignité à la sienne anglaise en jouant, en faisant représenter une pièce shakespearienne. Mais on voit toujours que ce contexte historique de 1728 est dominé par des polémiques qui sont à la fois esthétiques et politiques, indissociablement liées entre les partis qui s'affrontent d'une part et d'autre part avec des esthétiques qui sont opposées l'une à l'autre. Alors, les questions que je voudrais poser pour terminer sont liées au fait que depuis 1727, représentation, 28 éditions, Noble Falsehood a été l'objet de multiples interrogations. La plus essentielle étant la suivante. Faut-il croire Théobald et supposer que sa pièce est véritablement une adaptation d'une pièce du XVIIe siècle dont il possédait plusieurs manuscrits? Ou bien faut-il accepter les insinuations de Pope dans The Dunciad Variorum de 1729 et considérer que cette pièce est une falsification, est une supercherie, une mystification dont Théobald serait l'unique auteur? Et cette thèse a été reprise par certains critiques, minoritaires, il faut bien le dire, au cours du XXe siècle, et en particulier en 1974, il y a un livre de Harriet Fraser qui argumente en faveur de la falsification et de la mystification. Ces arguments sont doubles. D'un côté, Théobald connaissait le théâtre élisabétain et des premiers Stuarts, il connaissait Shakespeare, et il pouvait en imiter l'écriture. Son rapport à Shakespeare était multiple, on l'avait vu, il le connaissait comme critique, et dès la publication très éphémère de son journal ou de son périodique The Censor, il a voué des articles à des pièces de Shakespeare, par exemple Othello. Il le connaissait comme poète. Son poème The Cave of Poverty est présenté comme une imitation de Shakespeare, c'est-à-dire une imitation des poèmes, Le viol de Lucrèce et Vénus et Adonis. Il le connaissait comme dramaturge, puisqu'en 1720, il avait adapté Richard II dans une nouvelle version. Et bien sûr, il le connaissait comme éditeur, puisque dès 1725, avec Shakespeare Restored, il s'est attaché à restituer le texte shakespearien contre les altérations et les corruptions. Il y a donc un savoir poétique, linguistique, très puissant chez Théobald de l'œuvre shakespearienne qui lui permettait une mystification, c'est-à-dire d'écrire une pièce shakespearienne. D'autre part, le second argument pour la mystification est le fait qu'il connaissait aussi son Cervantes, et qu'il pouvait trouver dans le Don Quichotte lui-même l'intrigue de Cardenio pour en faire la matière d'une pièce qu'il écrivait dans le style shakespearien. Une preuve de cette connaissance est qu'en 1741, Théobald écrit un English opera qui a pour titre The Happy Captive, et dont l'intrigue peut être inspiré au moins en partie par le récit du captif inséré dans les chapitres 22 à 24 du Quichotte, lorsqu'est narrée l'histoire de ce captif des Banios de Argel, des prisons mauresques ou barbaresques d'Alger, dont le captif s'est enfui accompagné de la belle Zoraïda, et c'est la matière de ce récit, de ces trois chapitres. Alors, c'est une des bases possibles des Happy Captives au milieu des années 1740, de toutes ces pièces ou de ces opéras qui sont inspirés par les thèmes du monde barbaresque ou ottoman. Il y a donc deux raisons. Le croisement entre la possibilité d'écrire à la manière de Shakespeare sur une intrigue puisée dans un livre qu'il connaît, qui soutiennent la thèse de la mystification. Et la thèse, évidemment, est séduisante, en particulier pour le XXe siècle, très fasciné par les mystifications littéraires, l'écriture des textes qui n'existent pas, mais qui donc, du coup, acquièrent une identité. Il suffirait de mentionner les nombreux exercices de Borges dans ce genre. Pourtant, il y a des objections qui me paraissent tout à fait fortes pour récuser la thèse de la mystification. D'abord, il y a des raisonnements par hypothèse plausibles. Il est tout de même difficile de penser que Théobald, à un moment où il voulait établir son autorité érudite, shakespearienne, contre Pope, pour se poser comme le candidat pour une possible nouvelle édition de Shakespeare, qui serait restaurée, corrigée, émandée, ait pris le risque d'une telle supercherie littéraire au moment où il veut affirmer cette autorité savante sur le texte shakespearien, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer que d'une préface à l'autre, il insinue un doute et se montre un peu moins que certain de l'authenticité shakespearienne, introduisant la figure de Fletcher, et qu'en 1733, il décide de ne pas publier Double Falsehood dans son édition de Shakespeare, c'est-à-dire de ne publier aucun des manuscrits qu'il possède comme étant suffisamment shakespearien pour entrer dans cette édition. Donc pourquoi prendre un risque d'une telle supercherie vulnérable au moment où toute sa stratégie d'auteur est une stratégie d'éditeur et d'authentification de sa compétence érudite. Plus grave, semble-t-il, risque plus grand encore aurait été de compromettre l'autorité non seulement de son protecteur, d'Oddington, mais du roi, avec le privilège obtenu et publié dans l'édition de 1728, avec les armes royales, de compromettre cette double autorité par une falsification littéraire, quel qu'en soit le plaisir, imiter Shakespeare, écrire comme Shakespeare, ou quel qu'en soit le profit, c'est-à-dire un profit lié avec les représentations ou la vente de son manuscrit. Il paraît qu'il y aurait là, dans un moment où la vulnérabilité du texte est tout à fait patente, un risque de compromettre une des autorités très puissantes politiquement et socialement, qui paraît difficile d'admettre qu'il l'ait assumé. Et puis, il y a des arguments qui sont fondés sur l'étude de la pièce elle-même, « Double Falsehood », et qui peuvent être avancés pour conforter l'idée que derrière ou en amont de cette pièce existe un ou plusieurs autres textes qui sont antérieurs. D'abord, l'analyse du langage, et c'est un argument que je trouve tout à fait intéressant, développé par un auteur qui s'appelle Jonathan Hope, dans un livre publié en 1994, « The Authorship of Shakespeare's Play, a Sociolinguistic Study ». Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse réellement de sociolinguistique, mais d'une analyse extrêmement méticuleuse d'un trait spécifique à la langue anglaise, dans son contraste entre ce qui est admis fin XVIe et début XVIIe et ce qui est pratique courante au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les usages que l'on dit « regulated » ou « unregulated » de l'auxiliaire « do ». Dans la langue du XVIIIe siècle jusqu'à la langue contemporaine, le « do » ne s'emploie pas dans les phrases affirmatives, sauf avec la volonté de marquer une insistance. En revanche, il est obligatoire dans les formes négatives et dans les formes interrogatives. Alors que dans la langue du XVIe, XVIIe siècle, il peut en aller à l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation, ce sont des formes considérées comme unregulated par rapport à un état contemporain de la langue, dans lequel le do peut être extrêmement fréquent sans intention d'intensité dans les phases affirmatives et ne pas être utilisé dans les phrases négatives ou interrogatives. Et on peut détecter une différence de datation d'un texte selon cette présence quasi universelle de la regulation, telle qu'elle apparaît à partir du XVIIIe siècle, ou selon ses emplois du XVIe, XVIIe, qui ne respectent pas cette régularisation. Et on le voit très clairement, par exemple, lorsque l'étude est faite sur une pièce écrite entièrement par Théobald et revendiquée comme telle, comme la pièce qui s'appelle « La princesse persane », et où il y a 99% des phrases avec l'emploi régulier de « do », absent des affirmatives, présent dans les interrogatives et les négatives. Or, dans « The Double Falsehood », le pourcentage n'est que de 88%. Donc un écart qui pourrait laisser penser qu'il y a bien derrière la réécriture de Théobald une écriture première d'une date à laquelle le taux de régularisation de l'emploi de do n'était pas semblable à celui exigé par la langue moderne, commençant avec le XVIIIe siècle. Alors, on a pu opposer à cet argument un autre argument, en disant que, justement, pour qu'un texte sonne comme s'il était du XVIe et XVIIe siècle, on devait y multiplier, si l'on écrivait une falsification, une forgery, une mystification, on devait y multiplier les emplois non réguliers, unregulated, de do. Et effectivement, c'est ce que font les faussaires. Il y a une histoire formidable qui sont les falsifications de la toute fin du XVIIIe siècle d'un falsificateur, d'un faussaire qui est William Henry Ireland, qui, dans les années 1790, découvre dans des malles perdues une immense quantité de manuscrits shakespeariens, c'est-à-dire une correspondance entre Shakespeare et Southampton, des lettres que lui a adressées la reine Elizabeth, une magnifique texte très protestant qui est « A Profession of Faith » écrite par Shakespeare, et puis le manuscrit original de la main de Shakespeare de King Lear, et aussi deux pièces qui avaient été perdues, l'une qui est un Henri II et l'autre qui s'appelle Vortigern and Rowena, ça sonne très saxon. Et donc c'est une accumulation de documents shakespeariens qui sont pour les uns publié en 1795 dans un volume où Ireland rassemble les documents autographes, les correspondances, la profession de foi et le manuscrit original de King Lear. Et d'autre part, les deux autres pièces, l'une d'entre elles en tous les cas, Vortigern and Rowena, va être jouée une fois à Drury Lane en 1796. Et toute cette affaire de mystification shakespearienne extrêmement intéressante parce que d'un côté, elle montre la persistance de l'idée de l'authentification par la parole aristocratique et Ireland convainc un certain nombre d'autorités littéraires ou sociales de l'authenticité des documents. Il organise d'ailleurs une exposition de tous ces documents dans sa propre demeure. Et de l'autre côté, elle montre ce qu'avait bien montré Grafton dans son livre Forgers and Critics, qu'il y a des instruments pour démontrer la fausseté, et c'est ce que fait un des derniers éditeurs du XVIIIe siècle, le dernier éditeur de Shakespeare au XVIIIe siècle, Malone. Mais par rapport à ce que je dis en ce moment, le point important, c'est que le pourcentage de phrases dans les falsifications de Ireland qui sont unregulated atteint plus du tiers, c'est-à-dire un effet d'ancienneté qui est renforcé par une exagération d'une pratique possible, mais qui n'était pas non plus universelle, dans l'écriture du XVIe et XVIIe siècle. La présence de « doux » dans les affirmatives ou son absence dans les négatives ou les interrogatives est possible. Elle n'est pas pour autant aussi systématique que le montrent les falsifications. C'est-à-dire un des traits qui permet souvent de repérer les falsifications est un excès dans l'imitation des formes anciennes. Et le fait que dans « double falsehood », le taux de « unregulated sentences » soit de 88%, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Ça prouve que le texte ne peut pas être un texte uniquement du XVIIIe siècle, mais ça prouve aussi que ce n'est pas une mystification qui va jusqu'à l'exagération qui sera celle de Ireland de façon à donner une patine d'antiquité au texte, est un argument qui permet de penser qu'effectivement, Théobald a hérité d'un texte du XVIIe siècle, qu'il l'a adapté et révisé, peut-être en limitant ou réduisant le pourcentage des unregulated sentences, mais ce n'est même pas sûr dans la mesure où les statistiques qui ont été faites sur des textes authentiquement shakespeariens ou fletchériens montrent des taux qui sont de ce même ordre, un peu en dessous, un peu au-dessus de 80%. Donc cette analyse très minutieuse sur la régularité ou l'irrégularité de l'emploi de doux va plutôt en renforçant l'idée qu'il y a en filigrane dans le texte de Théobald un texte plus ancien où la pratique des 99 ou 100% de régularisation n'était pas nécessaire ou universelle. D'autre part, un second argument a pu être avancé sur la relation qui existait entre des passages, des phrases, dans Double Falsehood et la traduction anglaise du Quichotte de Shelton de 1612. C'est-à-dire de repérer tout un ensemble de vers de Double Falsehood qui sont très en parallèle par leur structure, par leur vocabulaire, par leur équivalent avec les phrases correspondantes dans la traduction de 1612 de Shelton. L'argument consistant à montrer que le texte de Double Falsehood n'était pas dépendant de traductions postérieures à la traduction de Shelton, publiée pour la première fois en 1612. J'y reviendrai, Le Quichotte étant un livre très fondamental de l'Angleterre du XVIIIe siècle. À partir de 1687, avec la traduction de John Phillips, vont se multiplier d'autres traductions. Et Theobald aurait pu utiliser la traduction de Phillips de 87, deux traductions parues la même année 1700, l'une de John Stevens et l'autre de Peter Motteux, et encore une traduction publiée en 1719 de John Ozell. Mais aucune de ces quatre traductions ne donne une matrice pour les vingtaines d'exemples de textes parallèles entre des vers de Noble Falsehood et un texte traduit en anglais du Quichotte, qui est toujours le texte de 1612. Donc, si l'on a ce point-là, on n'a plus que deux possibilités. Soit faire l'hypothèse, et c'est la thèse de ceux qui soutiennent la mystification, que Théobald a très bien pu se référer au texte de Shelton pour construire sa falsification, et il n'avait pas besoin d'ailleurs de se référer à l'édition de 1612. Le texte de Shelton a été réédité en 1652, 1675, 1725. Il y avait donc des éditions disponibles pour Théobald pour cet emploi très parallèle dans son texte de formules, de phrases, de structures qui se rencontrent chez Shelton. Mais cet argument en lui-même recevable va contre ceux qui étaient du double risque insensé qu'aurait pris Théobald pour une falsification littéraire au moment de s'établir comme savant shakespearien et impliquant l'autorité du roi. Soit, deuxième possibilité, penser que, effectivement, les auteurs du premier texte, le texte de 1613, ont pu utiliser la traduction de Shelton, qui circulait d'ailleurs, je l'avais dit, depuis 1607 en manuscrit, pour démarquer un certain nombre de vers qui se retrouvent plus ou moins tels qu'ils pouvaient avoir été en 1613 dans le texte de Noble Falsehood. Il est clair que les arguments historiques et linguistiques font basculer l'hypothèse du côté de la vraisemblance de ce texte en filigrane dans le texte de 1728 et s'ajoutent aux hypothèses en termes de plausibilité pour récuser l'idée que Théobald a voulu mystifier son public en écrivant un texte qu'il présentait comme shakespearien, mais qui aurait été tout entier de sa plume. Un autre argument, je vais terminer avec ça aujourd'hui, qui va dans le sens de donner crédibilité à Théobald, de récuser la thèse de la mystification, c'est une remarque qui avait été faite dès 1916 sur Noble Falsehood par un critique, Walter Graham, qui y repérait le fait qu'il y avait des différences assez profondes entre la première et la deuxième partie de la pièce, la coupure pouvant être installée à partir de l'acte 3, et en particulier la troisième scène. Et ici, l'analyse se fondait sur un trait non pas linguistique, cet emploi régulé ou unregulated de « do », mais sur un trait poétique, c'est-à-dire la préférence pour certaines terminaisons de vers, et en particulier ce qu'on appelle en anglais « feminine endings », c'est-à-dire des vers qui se terminent par deux mots monosyllabes. Par exemple, « sir »,« not »,« not »,« sir ». Donc, la terminaison du vers qui est marquée par la juxtaposition de deux monosyllabes. Et Graham repérait le fait que dans la pièce de Théobald, le pourcentage d'abord était plus élevé que dans les propres pièces de Théobald, et que d'autre part, il était distribué inégalement entre la première et la seconde partie, plus ou moins la frontière étant cette troisième scène du troisième acte. Or, la remarque était évidemment très pertinente parce que un des traits qui caractérise l'écriture poétique et dramatique de Fletcher, c'est justement cette très forte préférence ou cette très forte attrait pour les feminine endings. Dans les pièces qui ont été écrites en collaboration et que l'on estime comme telles, The Two Noble Kinsmen et Henri VIII, et où l'on a pu, pour d'autres critères, répartir vraisemblablement entre Shakespeare et Fletcher tel ou tel passage, le contraste est formidable entre le pourcentage de vers qui se termine par ces feminine endings dans les parties attribuées à Shakespeare. Les pourcentages sont entre 20 et 28%, et dans les parties attribuées à Fletcher, entre 58 et 62%. Donc il y a très clairement un goût de Fletcher pour ce type de fin de vers. Et donc, du coup, la transposition sur Double Falsehood de ce constat permettait de suggérer, comme l'avaient fait d'ailleurs certains des critiques, que la main de Fletcher était très importante dans Double Falsehood, et que la mention par le libraire Mosley en 1653 d'une pièce qui était « By Master Fletcher and Shakespeare » trouvait un support poétique avec des parties où le taux très élevé de feminine endings pouvait conduire à l'hypothèse d'une écriture par Fletcher et des parties où leur taux beaucoup plus faible pouvait conduire à l'hypothèse que cette partie-là ou ces parties-là avaient été écrites par Shakespeare. De toute façon, il était clair qu'il y avait une pièce composite et qu'on ne retrouvait pas une unité du style et de la poétique entre les premiers actes et les derniers actes de Double Falsehood. Très récemment, dans un texte très précis, Brian Hammond, qui est l'éditeur pour le Hard and Shakespeare de Cardenio Double Falsehood, ça a renforcé cette conclusion avec une analyse encore plus précise des feminine endings, plus précise que celle de Walter Graham en 1916, montrant qu'à partir de cette scène 3 de l'acte 3, les feminine endings sont toujours supérieurs à 43%, alors que dans les scènes et les actes précédents, leur pourcentage tombe en dessous de 40%, voire en dessous de 30%. Il y a donc là un argument très puissant pour récuser de nouveau la mystification, parce qu'il faudrait supposer qu'en voulant imiter Shakespeare, Théobald aurait largement imité Fletcher. C'est-à-dire que, comme le dit avec ironie un des critiques de la pièce, il aurait, par inadvertance, fait une falsification du mauvais auteur. Il aurait plagié, sans le savoir, le mauvais auteur. Il aurait écrit comme Fletcher des parties anciennes qu'il revendiquait comme étant celles de « Written originally by William Shakespeare ». Alors, il est possible que, d'ailleurs, je termine avec ce détail, que Fletcher ait eu connaissance de ce texte de 1653, qui est finalement celui qui attribue la pièce, de manière explicite et historiquement, à Shakespeare et Fletcher. Fletcher et Shakespeare, dans cet ordre. Ceux qui pensaient que Théobald avait eu accès au registre de la Stationer's Company pour vérifier la date de la traduction, pour découvrir la date de la traduction du Quichotte par Shelton, enregistrée en 1611, ont pu penser aussi qu'il avait, dans un travail d'historien sur les registres de la compagnie, de la communauté, découvert l'entrée de Mosley de 1653, qui le mettait sur la piste d'une pièce à deux auteurs. Est-ce qu'il lui insinuait ce doute quant à l'authenticité si profondément shakespearienne que, par ailleurs, il clamait de la pièce ? Il est possible aussi que, même si on écarte cette hypothèse, il ne semble que personne au XVIIIe siècle, parmi les critiques littéraires ou les éditeurs, aient réellement consulté les registres de la Stationer's Company, qui gardaient leur finalité professionnelle pour l'origine et la perpétuation des copyrights. Il est possible néanmoins qu'il ait eu connaissance de cette double attribution de la pièce, et c'est une découverte de Brian Hammond dans ce prologue, préface à cette édition qui va paraître, dans la mesure où en 1718, Jacob Thompson a acquis, a acheté tous les copyrights de Mosley. Tous les copyrights que Mosley avait enregistrés entre 1630 et 1661, donc pendant 30 ans, et comme je l'avais dit, Mosley, comme libraire royaliste, était très attaché à, pendant toute la période de la Révolution, publier des pièces que l'on ne jouait plus. Il y a donc une énorme quantité de pièces de théâtre dans ces copyrights que possédait Mosley et qu'en 1718, Thompson acquiert. Et on y rencontre, dans le document, qui est le document de la vente, de la cession, « The History of Cardenio by Fletcher and Shakespeare », qui figure dans la liste de ces « Mosley's Copies », et aussi dans une table alphabétique de toutes les pièces qui sont là acquises par Thompson achetant les copyrights de Mosley, la pièce « The History of Cardenio ». Que faut-il conclure de cela? Est-ce que un manuscrit existait encore en même temps que la vente des copyrights était attachée à cette vente des copyrights? C'est possible, mais personne ne le saura. Ce que l'on peut en déduire, il est possible aussi que Thompson, qui détenait ces listes, ait pu les communiquer à Théobald au moment où celui-ci entreprenait pour ce même Thompson l'édition de 1733. Et si Théobald a eu connaissance de documents, il a lu effectivement que la pièce au milieu du XVIIe siècle était attribuée à Shakespeare et Fletcher, ce qui pouvait renforcer sa décision de ne pas la publier dans les works de Shakespeare qu'il édite en 1733. Cette discussion, c'est pour savoir ce qu'un homme ou un éditeur comme Théobald pouvait savoir des documents anciens du XVIIe siècle. Mais indépendamment du fait de ce qu'il pouvait savoir et qui pouvait le conduire à avoir plus de doutes qu'il n'en avait eu sur l'authenticité shakespearienne de son manuscrit ou de ses manuscrits. Ce qui reste important ici, c'est qu'il y a comme une possibilité de corroborer cette attribution double, Fletcher, Shakespeare, de la pièce en 1653 par Mosley, avec une analyse de type poétique qui clairement montre que Double Falsehood est une pièce composite, qu'il n'y a pas d'unité d'écriture, qu'il y a des traits très spécifiques qui peuvent se reconnaître en particulier, mais pas seulement, j'ai simplifié l'argument, avec les feminine endings de certains vers, et qui, à partir de ce moment-là, rendent plus difficile encore la thèse de la mystification, parce que je supposerais que Théobald soit, sans le savoir, à imiter du Shakespeare ou du Fletcher, ou en le savant, a fait un effort considérable pour imiter dans une partie Shakespeare et dans une autre partie Fletcher, ce qui paraît peut-être aller au-delà de sa compétence ou de sa volonté. Mais ce qui reste, donc, une fois écarté cette thèse de la mystification, c'est que l'on peut repérer dans le texte de Double Falsehood, en filigrane, un texte plus ancien, lui-même composite, et dont, se fondant sur la mention de 1653, on peut repérer les deux auteurs et corroborer par des traits stylistiques, c'est-à-dire une partie qui pourrait être d'écriture shakespearienne et une autre partie, à partir de la scène 3, de l'acte 3, qui serait, elle, liée à un trait tout à fait caractéristique de l'écriture poétique et dramatique de Fletcher. Donc la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, effectivement, cette traversée des préliminaires de l'édition de 1728, des récusations par Théobald des accusations de ses adversaires, et donc du coup d'une entrée dans la pièce à partir des critères linguistiques ou poétiques qui permettent d'identifier d'une part des différences entre un texte du XVIe, XVIIe et un texte du XVIIIe siècle, et d'autre part des différences entre les préférences de tel auteur tel ou tel dramaturge du XVIIe siècle, amène à cette conclusion que, effectivement, on est face à double falsehood, quand on est face à double falsehood, face à un texte qui est comme sédimenté, qui a plusieurs couches textuelles. Il y a évidemment l'adaptation et la réécriture de Théobald. Il y a le manuscrit qu'il utilise et qui date du milieu du XVIIe siècle, qui est lui-même une première adaptation ou révision de la troisième couche textuelle, c'est-à-dire le Cardenio de 1613, et que l'attribution de traits propres de la pièce de 1728 doit être prudemment menée, puisque ces traits peuvent être assignés à la révision et l'adaptation de Théobald, à la révision et l'adaptation faite pour la troupe de Davenant et dont la trace subsisterait dans le manuscrit, évidemment perdu pour nous, du régisseur Downes, ou une inscription, une attribution qui peut renvoyer au texte originel, c'est-à-dire le texte de Fletcher et Shakespeare de 1613. Et c'est donc avec cette idée qui peut être illustrée par la photographie, comme si on avait dans un texte un négatif de ce texte, ou qui peut être illustrée par une métaphore plus archéologique, c'est-à-dire des couches de texte, mais qui seraient évidemment superposées dans l'immédiateté d'un seul texte, le dernier, celui de 1728, que l'on pourra, la semaine prochaine, entrer dans la pièce de Théobald et non seulement revenir sur ces trois registres d'attribution, mais aussi revenir, en rapport avec le cours de l'année dernière, sur comment Théobald, héritier ou créateur, a traité l'histoire, ou plutôt la nouvelle de Cardenio. Merci. Alors je rappelle à ceux qui sont intéressés, en particulier aux étudiants, que nous avons à 16h, salle 4, la séance du séminaire. Et puisqu'on ne se reverra pas avant, que mercredi prochain, à 11h, dans l'amphi Budé, Fernando Bouça donnera, et je vous incite à participer parce que c'est un des plus importants historien espagnol et travaillant sur des sujets ou des perspectives très comparables à celles de ce cours et du séminaire, la première conférence sur les hétérographies du siècle d'or et en particulier sur les écritures touchées ou mangées dans la période du XVIe et XVIIe siècle castillan. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.